Chapitre 89. Harley dîna dans sa chambre à 18 h, sa geôle proposant un service d'étage. Chacun des enfants disposait d'une chambre individuelle équipée d'un grand lit, d'un petit salon et d'une salle de bain individuelle. Mais le cadre le plus agréable relève de la prison, tant qu'on ne jouit pas d'une entière liberté. Cela faisait 10 mois qu'il était retenu dans cet endroit par des gardiens qui se prétendaient thérapeutes. Cette situation étrange, ajoutée à la solitude et à la peur, lui mettait les nerfs à vif. Il aurait préféré être prisonnier d'un cauchemar, car il suffit de se réveiller pour y échapper. Il ne savait pas combien de temps il arriverait à tenir. Il se sentait sur le point de partir en vrille. Il frisait la panne géante. Il avait toujours eu une imagination débordante, mais son esprit finissait par s'émousser, au point qu'il n'avait plus les idées claires. Dans ces moments-là, la rumeur du monde perdait tout son sens. Les voix, la musique, le chant des oiseaux, tout s'entremêlait jusqu'à former une bouillie sonore stridente qui lui faisait penser au raffut des wagonnets sur les rails d'un manège. Il éprouvait alors le besoin de s'allonger, de fermer les yeux et de rester immobile jusqu'à ce que l'impression de panique se dissipe. Certains des autres enfants souffraient bien davantage. Les deux plus jeunes, Sally Ingram et Nora Reinhardt, respectivement âgées de 7 et 8 ans, partageaient la même chambre parce qu'elles avaient peur de dormir seules la nuit. Quant à Jimmy Cole, qui avait 10 ans, c'était déjà un gamin fragile quand tout avait commencé. Il était définitivement rentré dans sa coquille depuis Noël et passait des journées entières sans adresser la parole à personne. Harley s'installa pour dîner près d'une fenêtre, d'où il apercevait dans le lointain le lac et le reste de la propriété, auxquels les rayons de la lune donnaient une apparence sinistre. Il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres, pas plus que les portes étaient fermées à clé. Les prisonniers de ce faux pensionnat étaient libres de parcourir les 2 hectares de la propriété. Celle-ci était protégée par une enceinte haute de 3 mètres. Mais il était aisé de l'escalader grâce au réseau dense de vignes vierges qui la recouvraient, ou aux arbres dont les branches surplombaient le mur. Dans le nord du parc, la grille en fer forgé permettant d'accéder au ponton privé était plus facile encore à franchir. Harley avait initialement pensé que s'évader serait un jeu d'enfant, avant de s'apercevoir du contraire, et il n'était pas le seul dans son cas. Il fallait croire que ses gardiens prenaient un malin plaisir à induire les enfants en tentation. Il aurait aimé se persuader que les membres du personnel étaient des monstres, mais ce n'était pas le cas. À l'image de ses parents, il s'agissait de gens ordinaires qui avaient changé. Ils vaquaient à leurs occupations comme auparavant, à ceci près qu'il suffisait de leur donner un ordre, par exemple celui d'abandonner leurs enfants, pour qu'ils obéissent sans hésiter, tout en étant persuadés d'agir pour le mieux. Jamais il ne leur serait venu à l'idée d'insulter ou de frapper les gamins dont ils avaient la charge. Ils se montraient même d'une grande gentillesse. Harley aurait préféré avoir affaire à des zombies, car il n'aurait eu aucun scrupule à les tuer. Ce n'était pas l'envie qui lui manquait parfois, tout en sachant que le moment venu, il serait incapable de les poignarder. Non, les vrais monstres étaient ceux qui avaient transformé tous ces gens en robots. Harley avait bien plusieurs théories sur la question, mais aucune ne tenait la route. Il avait vu son lot de films dans lesquels des extraterrestres ou des intelligences artificielles prenaient le contrôle d'individus normaux, de sorte qu'il avait l'embarras du choix. Sauf qu'au cinéma, il y avait toujours un héros pour combattre les méchants, ce qui n'était pas le cas dans la vraie vie. Une armée ne serait pas venue à bout de l'ennemi contre lequel il se battait désormais, si bien que l'humanité était foutue. Harley ne supportait pas l'idée de changer lui aussi, le jour de ses 16 ans. Il lui fallait donc trouver le moyen de s'échapper, et vite. Les environs étaient probablement truffés de caméras plus ou moins bien dissimulées. Il suffisait qu'un logiciel analyse en temps réel les images qu'elle filmait pour identifier tout mouvement inhabituel et alerter le personnel. Il était difficile de s'évader de la propriété, non seulement à cause du personnel, mais aussi parce que tous les habitants de Haut-Fourneau-le-Lac, âgés de plus de 16 ans, avaient été remplacés par des imposteurs ou métamorphosés en abeilles serviles et industrieuses. Lors de ses 2 premières tentatives d'évasion, Harley était allé trouver des gens qu'il connaissait afin de demander leur aide. À son grand étonnement, Il l'avait retenu de force, en attendant que le personnel du faux pensionnat vienne le chercher. La troisième fois, il avait abordé des touristes dans la rue. Ils avaient tout d'abord cru à un canular, avant de penser qu'il souffrait de troubles mentaux, ce que s'étaient empressés de confirmer les gardiens qui étaient passés le récupérer. La seule façon de s'en sortir était de s'éloigner du village et de trouver le moyen de convaincre ses interlocuteurs. Chaque nouvelle évasion lui apportait toutefois son lot d'informations. En découvrant son père et ses acolytes la nuit précédente de l'autre côté du lac, il avait compris qu'en plus des caméras, ils avaient forcément caché sur lui une puce GPS. Dès son retour dans sa chambre, Harley avait examiné son corps sous toutes les coutures dans le miroir de son dressing à la recherche d'une cicatrice susceptible de trahir la présence d'un implant. Faute de rien découvrir, il s'était mis au lit, épuisé. Il finissait de dîner lorsqu'il fut pris d'une inspiration, ses chaussures. À son arrivée au pensionnat, on lui avait laissé tous ses vêtements, à l'exception de ses chaussures que ses gardiens avaient remplacées par des baskets. La nuit précédente, il les avait abîmées en pataugeant dans l'eau au moment de débarquer sur la rive. Il aurait été facile de les nettoyer, au lieu de quoi, il avait été surpris qu'on les lui retire avant de découvrir une paire neuve dans son dressing. Cet échange s'expliquerait si la puce GPS avait été endommagée. Sa salle de bain était équipée de toilettes séparées, et il voyait mal ses gardiens dissimuler une caméra dans un lieu aussi intime. Il avait d'ailleurs pris le temps de fouiller le réduit de fond en comble, sans rien trouver de suspect. Il s'y enferma, ses nouvelles baskets aux pieds, abaissa le couvercle des toilettes afin de s'y asseoir, et retira ses chaussures. Il commença par examiner le pied gauche sans rien découvrir d'anormal, mais au niveau du talon du pied droit se trouvait un cercle d'un centimètre de diamètre, comme si l'on avait évidé le caoutchouc pour y glisser un objet avant de recoller le bouchon. Il lui suffisait d'utiliser le couteau qu'on lui avait fourni pour couper son steak pour dégager la cavité et l'explorer, mais il courait le risque d'endommager la puce et d'alerter ses gardiens. Le mieux était encore de conserver l'avantage en leur laissant croire qu'il ignorait l'existence de ce GPS. Comme il avait passé sa journée à dormir, il ne trouva pas le sommeil cette nuit-là avant 2 heures du matin, ce qui lui laissa tout le temps de fourbir un plan d'évasion pour le mardi soir.